En préparant ce podcast, je me suis rendu compte, au fil de ma vie, que je connaissais très peu l'histoire de l'esclavage dans les Outre-mer françaises. En tant qu'habitante de métropole, j'ai souvent appris les grandes dates de notre histoire, les guerres mondiales, la Révolution, la prise de la Bastille, mais l'esclavage reste largement absent de nos enseignements. Pourtant, c'est une histoire tragique qui fait partie de notre héritage et qui nous aide à mieux comprendre le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est cette histoire que je souhaite explorer avec vous, à travers les voix de celles et ceux qui l'étudient, la transmettent et la font vivre. Alors aujourd'hui, à travers ce podcast, on explore l'histoire de l'esclavage dans les Outre-mer français, ses origines, ses logiques, ses conséquences. Et pour recontextualiser tout ça, cette période fondatrice, nous accueillons l'historien Johan Chanoir, agrégé, docteur, enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de Recherche Historique à l'École Haute Études en Sciences Sociales. Bonjour Johan.
Bonjour Christine.
Alors ça va, j'ai rien oublié ?
Non.
Tout
c'est
est
parfait.
Bon. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui dans les studios de Radio Primitive pour pouvoir répondre à mes nombreuses questions sur le sujet, un sujet très très vaste au fur et à mesure que j'ai fait des recherches, que j'ai commencé à l'étudier un petit peu plus que ce qu'on étudie à l'école. Je m'en suis vite aperçue, donc je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour peut-être éclaircir deux, trois petites choses. Alors déjà, quand on parle d'esclavage dans les Outre-mer, de quelle période on parle ?
Alors on parle de deux siècles, même un peu plus de deux siècles, parce que l'esclavage commence véritablement, même si on a des traces antérieures, en 1642, lorsque Louis XIII autorise la traître dans les possessions françaises. Et il s'arrête officiellement en 1848, avec l'abolition de l'esclavage. Mais il y a quand même des décrets qui sont, qui prolongent pour les citoyens français à l'étranger, donc jusqu'en 1858. Donc on parle grosso modo de deux siècles. Et si on veut évoquer la population servile, on parle de 4 millions de personnes, dont 2 millions qui ont été rasiées en Afrique.
Alors c'est vraiment énorme, deux siècles, 4 millions de personnes. C'est quelle ampleur en fait finalement pour que les gens puissent se rendre compte un peu, ça pourrait correspondre à quoi ? Bon, deux siècles, on imagine très bien, mais en tout cas, 4 millions, c'est...
4 millions, c'est, on peut dire, 10 fois la population de Strasbourg. C'est pratiquement 4 fois la population de Marseille ou de Lyon, grosso modo. Voilà, donc sur deux siècles, ça paraît long, mais en même temps, c'est assez court. Alors, par rapport à d'autres pays ou par rapport à la traite qui existe depuis, on va dire, le XVIIe siècle en Afrique avec des puissances européennes comme le Portugal, les flux sont moindres. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les oublier.
Ah non. Et justement, donc on parlait des Outre-mer français. Donc nous, on a bien sûr aujourd'hui l'idée qu'on s'en fait. Est-ce qu'à l'époque, c'était la même chose ? Les territoires étaient considérés de la même manière ? Comment ça se passait en métropole pour recontextualiser aussi toute cette période ? Deux siècles en politique, en économie, c'est énorme. C'était quoi le début, la fin, l'évolution ?
Alors, aujourd'hui, quand on parle d'Outre-mer, en fait, souvent, on fait une erreur. On a l'impression que tous les lieux que l'on connaît, que l'on voit apparaître à la télévision, pour la météo, par exemple, ce genre de choses, malheureusement, lorsque la télé est brûlante, ce sont les mêmes territoires, pas du tout. On a ce qu'on appelle les départements d'Outre-mer, donc la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane, et puis on a ce qu'on appelle les communautés d'Outre-mer, enfin non, les collectivités d'Outre-mer, pardon, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, qui ont un statut très particulier avec une autonomie. Alors, le cas le plus particulier dans les cas particuliers, c'est bien sûr la Nouvelle-Calédonie, puisque, comme vous le savez, il y a un processus d'autonomisation ou de maintien au sein de la République française qui est lancé depuis plusieurs années, avec des retours en arrière et des événements assez tragiques. Mais voilà, donc c'est pas déjà toujours la même chose, en fait. Alors, les départements d'outre-mer, ce sont des anciennes, on va dire, colonies qui sont devenues départements en 1946. Et donc là, en 1946, ces personnes sont devenues véritablement des citoyens français et françaises à part entière. Alors, pour le reste, dans l'histoire, en fait, on a eu plusieurs empires coloniaux. Il s'est construit un peu soit par hasard. Par exemple, si on évoque l'Algérie, c'est un hasard. On n'avait pas de plan particulier pour conquérir l'Algérie. C'est parce que l'ambassadeur de France a été giflé par la personne qui possédait, je ne sais plus si c'était un sultan ou un bey, qui possédait l'autorité Alger. Donc Charles X, le roi de l'époque, a décidé d'envoyer une expédition punitive et
par
Alger
égo,
est tombé.
Voilà. En fait, tout simplement.
Tout à fait. C'est après, sous la monarchie de Juillet, puis surtout sous le Second Empire, qu'il y a eu véritablement une conquête de l'Algérie, etc. Donc c'est un peu par hasard. L'Afrique, c'est à peu près la même chose. Pour les nouveaux départements d'outre-mer, ça s'est passé dans la construction de cet empire. Alors il y a plusieurs reflux. En 1763, on en perd. On perd par exemple ce qu'on appelle la Nouvelle-France, donc le Québec, notamment, mais pas seulement. On va garder ce qu'on appelle les îles à sucre. Et puis après, on va perdre petit à petit plusieurs territoires. En fait, c'est une sorte de maïeutique, de couverture qui, au fur et à mesure, se rétrécit pour les territoires ultramarins, mais qui, dans le même temps, va commencer à grossir en Afrique, en Asie. On perd, par exemple, la Louisiane en 1804, où il y a beaucoup d'esclaves, parce qu'elle est vendue par Napoléon Ier aux États-Unis, parce qu'il a besoin d'argent pour mener ses campagnes militaires. On perd Saint-Domingue à suite d'une petite guerre, en 1809, si je me souviens bien. Donc voilà, en fait, c'est une sorte de construction alors, qui n'est pas toujours homogène. Il n'y a pas de plan, en fait, préconçu. Par exemple, l'Afrique, on connaît bien avec mes étudiants, c'est que lorsque, par exemple, il y a des explorateurs comme Brazza qui arrivent, en fait, il fait signer un protectorat avec un roi d'une communauté précoloniale. Et petit à petit, après, le Parlement, il avalise ce qu'a fait Brazza ou d'autres explorateurs. Et donc, on se retrouve avec une construction éparpillée dans différentes parties du monde, et avec différents statuts. Vous avez les colonies de peuplement comme l'Algérie, vous avez les anciennes colonies à sucre, îles à sucre, comme la Guadeloupe, etc., qui vont, après 48, avoir un statut encore particulier. Vous avez l'Indochine, vous avez l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française. Donc tout ça, en fait, ça crée une sorte d'ensemble très, très disparate. C'est pas géré de la même façon, ça n'a pas les mêmes buts, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Et il faut se méfier, pour conclure, ce qui a déjà été un peu long, d'une vision un peu uniforme de tout ce qu'étaient les ancêtres de l'outre-mer actuel.
Oui, parce que en fait, peu importe, même si c'était des colonies françaises, chacune d'entre elles que vous avez évoquées, en fonction du territoire, en fonction de la politique de l'époque, en fonction de la personne qui a été sur ces territoires, en fait, c'est totalement différent.
Tout à fait. Après, il y a des principes qui restent, comme par exemple, quand les Français vont introduire ce qu'on appelle le statut de l'indigénat, c'est-à-dire qu'ils retirent, qu'ils ne donnent pratiquement aucun droit aux populations qui sont colonisées, ça commence en Algérie, puis après, c'est étendu dans d'autres parties de l'Empire. Donc voilà, en fait, il y a à la fois des choses qui sont communes, mais également des choses qui sont différentes. Et puis, par exemple, on ne gère pas l'Algérie, qui est une colonie de peuplement, avant de devenir trois départements, un territoire autonome, le Sahara, comme on gère la Tunisie et le Maroc, qui sont des protectorats. Donc, c'est-à-dire qu'on essaye de maintenir, plus ou moins effectivement, il faut le dire quand même, l'autorité, on va dire, marocaine ou tunisienne.
Oui, je dis souvent que esclavage, colonialisme, sont là deux institutions qui ont le même objet, l'exploitation d'une race par une autre. On ne peut pas aller plus loin, aucun rôle positif. Aucun.
Et donc là, on fait un podcast normalement sur l'histoire de l'esclavage et on parle beaucoup de colonies. Qu'est-ce que le rapport, est-ce qu'il y a une définition qui est semblable, une racine en fait à ces deux mots de colonie, d'esclavage ?
L'esclavage n'est pas forcément consubstantiel à une colonie. Une colonie, c'est simplement un espace géographique qu'une puissance, qu'on appelle la métropole, s'approprie. Pour l'exploiter de manière humaine, pour l'exploiter de manière économique, pour avoir les avantages stratégiques. C'est tout, voilà, c'est ça la colonie. Donc ça n'implique pas nécessairement de l'esclavage. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'on oublie d'ailleurs souvent, c'est que dans les territoires qui vont devenir des colonies, comme l'Algérie par exemple, il y a déjà de l'esclavage, qui n'est pas importé, si j'ose dire, par les Français, mais qui existe, qui préexiste à la présence française. Et ce qui expliquera qu'après 1848, il sera maintenu. Parce qu'en fait, il est exercé par des personnes qui ne sont pas françaises, donc la France ne s'en occupe pas ou ne s'occupe peu.
Donc, vous l'avez dit, de toute façon, c'est important puisque l'histoire n'est pas linéaire. Ce n'est pas exactement le terme que vous avez employé, mais de recontextualiser donc toute cette histoire, ces deux siècles d'histoire. J'imagine qu'au fur et à mesure des recherches, des études, la manière de percevoir ces deux siècles a évidemment énormément changé.
Alors l'histoire, elle n'est pas linéaire, effectivement, même pour le récit des événements. Mais surtout, en fait, l'histoire change en fonction des préoccupations sociales et sociétales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esclavage est étudié beaucoup plus qu'auparavant, que par exemple dans ma génération, on l'étudiait vraiment très très peu. C'est parce qu'en fait, la société s'intéresse davantage à l'esclavage, à son héritage, etc., à son processus, ses modalités. Donc en fait, les historiens et les historiennes suivent un peu le mouvement, en quelque sorte, ou parfois même le précèdent. Et le téléguide, parce que en fait, l'histoire est une science qui avance constamment. On s'intéresse de, toujours à de nouveaux objets d'étude. Alors, je pourrais par exemple prendre aujourd'hui, parce que j'ai écrit un article dans une revue qui s'intéressait, le dossier était sur la cuisine. Par exemple, aujourd'hui, des historiens, des géographes s'intéressent à la street food.
D'accord.
Ce qui a 20 ans dont personne vraiment ne s'intéressait. On s'intéresse aujourd'hui, par exemple, au théâtre populaire, au théâtre de rue. Et il y a 20 ans, on ne s'intéressait pas. Aujourd'hui, on s'intéresse aux réseaux sociaux.
C'est des modes ?
Ce ne sont pas des modes. C'est parce qu'en fait, à un moment donné, on fait plus ou moins le tour sur une question. Et donc, on cherche aussi à trouver de nouveaux objets d'études, à essayer de voir si ces nouveaux objets d'études peuvent être étudiés avec les problématiques que l'on connaît par ailleurs. Donc, en fait, l'histoire est constamment en mouvement. Alors, à l'école, on ne le sent pas forcément, mais à l'université, on commence un petit peu à le découvrir. Mais l'histoire, en fait, est une science qui évolue totalement, constamment. Et l'esclavage fait partie de ces objets d'études qui, au départ, étaient un peu, on va dire, marginaux et qui, aujourd'hui, ont acquis une centralité.
Une bonne raison pour vous inviter, Joseph Ndiaye, vous qui êtes conservateur de la maison des esclaves de l'île de Gorée, au large de Dakar, au Sénégal. En 2005, il y a eu les excuses de Jacques Chirac.
C'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage, longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire. Une mémoire qui doit être véritablement partagée.
Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Parce que l'esclavage, n'oubliez pas que l'esclavage a duré 300 ans, de 1536 à 1848. Et je dis souvent qu'on parle beaucoup des camps de concentration juifs, que nous respectons, nous, en tant qu'Africains. Les camps de concentration juifs n'auront pas duré plus de 12 ans. La traite des Noirs aura duré 300 ans, 3 siècles, et on n'en parle presque jamais. Eh bien, en tant que conservateur de ce lieu, de ce sanctuaire africain, qui est la maison d'esclave de Gorée, j'en parlerai toute ma vie. J'en ai fait un sacerdoce.
C'est arrivé assez tard de prendre conscience de ce qui s'est passé. Vous avez parlé de votre période scolaire, si j'ai bien compris. Même moi, hein, à titre personnel, à l'école, j'ai l'impression qu'on a parlé de l'échange qu'il y avait au niveau des matériaux, au niveau du café, du coton, de ce genre de choses, mais beaucoup moins au niveau des êtres humains. Et j'ai eu l'impression un peu que ça a été totalement mis de côté. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. C'était il y a une petite vingtaine d'années, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est plus traité à l'école ? Pourquoi ça l'a moins été ? Est-ce que vous avez ce ressenti également ?
Oui, tout à fait. Bon, après, y a la rupture majeure, c'est la loi Taubira, hein, qui fait de l'esclavage un crime contre l'humanité. Il y a aussi le fait que, bon, voilà, ça renvoyait à une histoire coloniale qu'on a vue. Moi, j'ai appris quand j'étais au lycée que les colonies, c'était bien, parce que c'était comme ça. Il y avait très, très peu d'historiens, d'historiennes qui disaient, bah, oui, mais attention, quand même, ça s'accompagnait de choses absolument tragiques et détestables. Et voilà, donc, et le temps que l'école, en fait, digère les recherches historiographiques, ça doit prendre du temps. Hein, par exemple, on ne l'a pas étudié tout de suite, je change de sujet, mais qu'il y avait des collaborateurs, il y a de la collaboration, etc. C'est venu plus tard, parce qu'en fait, il y a un temps entre le moment où les historiens et les historiennes travaillent, et puis à un moment donné, où les écoliers vont s'approprier les travaux de ces historiens. Alors après, est-ce que ça n'intéressait pas grand monde ? Et c'est en fait devenu peu à peu, hein, c'est vraiment la loi Taubira qui a changé un peu les choses. Il y a des historiens qui ont travaillé, mais si vous voulez, l'esclavage était plutôt un phénomène, je dirais, périphérique. Par exemple, lorsqu'on étudiait la Seconde République, on étudiait l'esclavage, parce que c'est l'abolition de l'esclavage par Victor Schœlcher. Voilà, et puis on s'intéressait aux conséquences de l'abolition de l'esclavage dans ces territoires qui vont devenir des départements ultramarins. Donc voilà, donc on l'étudiait par la bande. Par exemple, lorsqu'on étudiait la Révolution française, on étudiait la première abolition de 1794, et puis le retour en arrière avec Napoléon Ier qui décide de le rétablir. Voilà. Donc en fait, on a toujours parlé de l'esclavage. Lorsqu'on parlait de l'époque moderne, on a évoqué les produits, on va dire, exotiques, tropicaux.
Le commerce triangulaire,
on en parlait, etc. On en parlait peut-être moins dans notre région parce qu'elle est totalement éloignée des grands circuits des flux humains, mais dans des villes comme Bordeaux, Nantes, tout à fait, par exemple, il y a, même dans le paysage urbain, il y a des statues, il y a beaucoup d'archives, etc. C'était, il y a de noms de rues parfois d'anciens exploitants, d'anciens armateurs, etc., qui se sont enrichis avec l'esclavage. Donc en fait, il y a une mémoire qui n'est pas unique, qui n'est pas homogène, qui est plurielle, qui est parfois, très accusé. Et d'ailleurs, si on regarde les autres pays, comme la Grande-Bretagne, c'est exactement la même chose. La Grande-Bretagne était une grande puissance esclavagiste, malheureusement. Et le revival de l'intérêt, la renaissance des études est arrivé aussi très tardivement par rapport au phénomène historique.
Oui, parce que du coup, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'information ou la date en tête, la loi Tobillera, c'est le 10 mai 2001. Donc c'est vrai que ça arrive assez tard après cette longue et triste période.
Alors fallait-il une loi pour reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité ?
Le Code noir qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit à la première fuite de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys, à la deuxième fuite de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys, à la troisième fuite de le mettre à mort. Ce code noir a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles. Seule une loi solennelle disant la volonté du peuple français pouvait contrebalancer et dire très clairement que la France, fidèle à ce qu'elle représente dans l'imaginaire universel, fidèle à sa réputation de patrie des droits de l'homme, la France des Lumières reconnaît aujourd'hui que ce crime qui était légal, qui était officiel, qui était justifié également par des textes ecclésiastiques, ce crime était un crime contre l'humanité et en fait, elle fait son travail de nation phare dans le monde en disant la première qu'elle reconnaît, qu'elle se désolidarise de ce crime et qu'elle reconnaît que c'était un crime contre l'humanité.
Pour revenir donc à cette période, pourquoi la France a cherché à développer un système esclavagiste et pourquoi avoir choisi aussi ces territoires-là ?
Alors, par un effet, on va dire, de suivisme, Richelieu, façon, l'avoue clairement, en 1642, lorsque la décision est prise d'autoriser la traite, Richelieu dit, c'est parce qu'il y a d'autres puissances européennes, le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne, qui le fait.
Donc, on revient sur de l'ego, en fait.
Exactement.
C'est toujours ça.
C'est toujours ça. Et c'est un instrument, malheureusement, c'est un instrument de puissance parce qu'il y a aussi un aspect économique. On dispose d'une main-d'œuvre abondante, d'une main-d'œuvre qui coûte peu et qui est presque corvéable à merci. Donc, il y a un impératif, faire comme les autres. Profiter d'un effet d'aubaine, malheureusement, et aussi, bien sûr, s'enrichir, parce que ce qu'on appelle ces îles à sucre, etc. Il faut quand même avoir en tête que le sucre, aujourd'hui, on en a partout, surtout ici dans notre région, parce qu'on a des betteraves, mais c'est grâce à Napoléon Ier, grâce à d'autres personnes que lui, mais c'est sous Napoléon Ier qu'on a découvert que la betterave était sucrière. Donc on pouvait générer du sucre, qui était beaucoup moins cher que le sucre des îles. Mm-hmm. Mais alors avant, le sucre était un produit rare, on n'a pas l'impression. C'est-à-dire que, et contrairement à l'image que l'on a tous, enfin plus ou moins, sauf les historiens et les historiennes, mais nos ancêtres avaient une dentition plus saine que la nôtre.
D'accord.
Parce que le sucre était rare. On trouvait que le sucre dans les fruits, un sucre naturel. On n'avait pas autant de sucre, même dans les produits ajoutés, etc. Donc le sucre était rare. Donc tout ce qui est rare est cher. Donc il y a aussi là une volonté de capter des flux financiers importants.
Et donc, oui, les territoires, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est un peu, entre guillemets, le hasard qui a fait que c'est tombé sur ces territoires-là.
Alors, il y avait des conditions géographiques et pédologiques propices, bien évidemment. On ne fait pas, par exemple, de la canne à sucre à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, il faut... alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais bon, il faut une certaine température, il faut un certain type de sol, etc. Donc, bien sûr, les territoires qui étaient, propices à cette culture ont malheureusement accueilli des plantations esclavagistes.
Rédigé sous l'autorité de Colbert et promulgué par Louis XIV en 1685, le Code noir réglemente l'esclavage aux Antilles. Les hommes et les femmes y sont considérés comme des meubles. Le Code noir. Édit du roi sur les esclaves des îles de l'Amérique. Mars 1685, à Versailles. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous, présents et à venir, salut. Préambule.
Donc, on l'a dit tout à l'heure, la France n'était pas la seule puissance. On a parlé de la Grande-Bretagne. Il y a les Pays-Bas également,
aussi,
si je ne dis pas de bêtises. Donc,
tout
il y a vraiment pas mal de territoires européens. Et puis, on a parlé donc un peu du début de cette période. Quand on fait des recherches, quand on s'intéresse un petit peu à cette histoire, on tombe énormément sur le code noir. Mmh. Alors, le code noir, normalement, la date, c'est, si je ne me trompe pas, 1685.
C'est ça.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le code noir ?
Alors, le code noir, en fait, c'est un texte de Louis XIV qui concerne au départ que les possessions, ce qu'on appelle les possessions de l'Amérique française. En fait, il entend, ce texte, il entend à la fois édicter des pratiques, mais en même temps en avaliser d'autres. Alors, il y a plein de choses dans le code noir. Hein. Il n'y a pas que des choses sur les esclaves, d'ailleurs. Par exemple, il y a des choses sur les juifs dans ces territoires. C'est ça qu'on l'oublie souvent. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a, par exemple ? Eh bien, en fait, il y a un ensemble de prescriptions qu'impose l'État royal, comme par exemple, les esclaves ne travaillent pas le dimanche, les esclaves ne travaillent pas les jours fériés, lors des fêtes religieuses. On ne peut pas, se livrer à des abus sexuels. L'esclave invalide ou l'esclave trop âgé doit être logé et nourri gratuitement. Donc il y a quand même tout un ensemble, là. On pourrait dire aujourd'hui humanitaire, mais entre guillemets, parce que malheureusement l'État n'a pas les moyens de s'assurer de leur respect intégral par les planteurs. Et puis les planteurs, c'est pas leur intérêt toujours et même forcément de respecter ces lois. Parce que, enfin, ces dispositions, par contre, parce que, bien sûr, ça leur fait perdre de l'argent. Donc, il y a tout ceci. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important, et c'est pour ça que les personnes le retiennent. Et c'est le second volet, si j'ose dire, c'est que, en fait, ça fait de l'esclave un bien meuble. Ah, c'est-à-dire qu'on lui retire sa personnalité juridique. Il n'a pas de personnalité juridique. Alors, même s'il peut être, d'ailleurs, c'est assez paradoxal, même s'il peut être traduit en prison pour avoir commis un crime, par exemple, ou un délit. Mais en tant que tel, il ne peut pas se défendre. Et là, en fait, il y a un retour à une conception antique de l'esclavage. Alors, je prends l'exemple d'Athènes, hein, la grande Athènes, par exemple, au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'esclave n'a pas de nom. On appelle l'esclave soma. Soma, c'est le corps en grec, hein, d'où les maladies somatiques aujourd'hui.
D'accord.
Voilà, il n'a pas de nom, il n'a pas d'identité, il n'a pas de personnalité. Et le code noir reprend cette disposition, en fait, de faire de... Et il y aura les incidences plus tard. L'esclave est un bien meuble qu'un propriétaire possède, qu'il a acheté, etc., qu'il peut revendre, etc. Mais, en fait, la part de l'humain dedans est totalement absente, sauf pour les dispositions précédentes que j'ai évoquées. Donc, c'est une sorte de mélange, mais qui va, en fait, cristalliser une vision de ce qu'est un esclave. C'est-à-dire que c'est un bien, voilà. Alors, petit à petit, effectivement, 1785, c'est le premier jet, si j'ose dire. Et après, ça va être étendu à d'autres territoires. On peut citer en 1783 les Mascareignes et en 1795 la Louisiane, parce que la Louisiane est aux États-Unis, comme chacun sait. Et les États-Unis, notamment dans le Sud, hein, sont une société, en fait, esclavagiste, où il y a des millions d'esclaves.
Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un pas en avant, mais deux en arrière, le Code Noir, quelque part.
Oui, et d'autant que... Alors, il y a... certainement des préoccupations d'ordre chrétien, qui, voilà, il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Puis ça, c'est un débat qui est ancien, hein, notamment avec les Amérindiens, par exemple. Ils ont une âme, ils n'ont pas d'âme, etc. On peut les exploiter, on peut les tuer, mais non, ce sont des êtres humains à l'image du Créateur. Donc tout ceci, c'est assez ancien. Mais ça montre aussi la volonté de l'État de s'occuper un peu de tout. Ça, c'est typique de la monarchie de Louis XIV. Mais sans en avoir réellement... soit les moyens, soit la volonté. Il y a par exemple, en fait, tout un ensemble de dispositions qu'on oublie souvent, c'est est-ce que... Parce que l'esclavage est interdit en France, sur le territoire métropolitain. Est-ce qu'on a le droit de ramener des esclaves en France ? Et donc, il y a toute une série de dispositions qui évoquent ceci. Et on sait aujourd'hui, parce que dans les archives, il y a moult dossiers, que des propriétaires d'esclaves ne respectaient pas ces décisions. Et donc, on a des procès ou des remontrances, des rappels à l'ordre. Donc, en fait, c'est une sorte de méta-système... le code noir, qui contient vraiment beaucoup de choses. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est à la fois donc, une volonté, pas d'humaniser, c'est un terme un peu fort, mais d'interdire certaines pratiques détestables, parce qu'on ne peut pas se le permettre, parce que c'est intolérable. Et puis, mais aussi le fait que voilà, ça cristallise une vision que l'esclave est un bien. Donc ça veut dire que ce n'est pas un homme. Alors en même temps, on lui donne des droits, enfin des droits, on donne des interdictions, mais en même temps, puisque ce n'est pas un homme, ces interdictions sont-elles vraiment nécessaires pour les planteurs, je parle.
Et puis bien sûr, on ne sait pas si c'est appliqué. Mais justement, ces planteurs, est-ce qu'on a un profil type de ces planteurs ou est-ce que c'était vraiment n'importe qui partait comme ça
Non, parce que déjà, les Français partent peu à l'étranger, hein, l'Empire colonial. Le français a souffert hein, par rapport, par exemple, aux Britanniques, par rapport aux Japonais. Donc on oublie souvent qu'ils avaient un empire colonial. Ils ont souffert de ce manque, en fait, de cadres, de personnes issues de la métropole, hein, que ce soit des militaires, des gendarmes, que ce soit des ingénieurs, etc. Donc, en fait, les Français partent peu. Les Français viennent d'un pays qui est longtemps resté paysan. Donc on n'aime pas bouger, mmh. On n'aime pas partir, etc. Donc c'est souvent des familles anciennes, très très riches, et en fait qui se succèdent. Ce sont des dynasties en fait. Alors, bien sûr, il y a parfois quelques aventuriers, hein. Ça il faut pas l'oublier. Mais la plupart du temps, ce sont véritablement des dynasties très très bien organisées sur le plan politique. Par exemple, il existe un lobby créole sous le consulat et l'empire de Napoléon Ier. Et c'est justement ce lobby créole qui va inciter Napoléon Ier à rétablir l'esclavage, en lui mentant, en fait, en lui faisant miroiter des choses affreuses, etc. Alors que Napoléon Ier, on le sait, il n'est pas pour lui-même, pour la restauration de l'esclavage, c'est pas pour lui un problème qu'il soit supprimé. Bien au contraire. D'ailleurs, lorsqu'il va arriver à l'île d'Elbe en 1815, après son abdication, eh ben, il va accompagner la décision du Congrès de Vienne qui abolit la traite, et lui, il décide aussi d'abolir la traite. Bon, ça n'a pas beaucoup d'impact, parce qu'il ne gère plus grand-chose. Mais voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est assez compliqué, cette situation.
Article 2. Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Article 9. Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront souffert, seront chacun condamnés à une amende de 2000 livres de sucre. Et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront les 10 enfants, voulons, qu'outre l'amende, ils soient privés de l'esclave et des enfants, et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu, si l'homme libre n'est pas marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église, sa dite esclave sera affranchie par ce moyen, et les esclaves rendus libres et légitimes.
Là, on parle de l'abolition avec Napoléon, mais avant ça, du coup, j'ai un petit peu spoilé, hein, comme on dit, la question que j'allais poser. La France a connu des abolitions, plusieurs, deux de ce que j'ai noté. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces moments, en fait ? Pourquoi elles sont arrivées, ces abolitions ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des révoltes ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé sur les territoires ultramarins et qui sont arrivées sur la métropole ? Parce que j'imagine qu'en plus, à l'époque, la communication, les informations ne passaient pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui.
Non, alors, bon, on sait quand même qu'il se passe des choses, hein. Ça prend du temps parce qu'il n'y a pas de télégraphe encore, enfin du moins, on va dire à la fin du 18e siècle. Mais bon, les nouvelles arrivent, même si elles mettent des semaines, etc. Il y a quand même une circulation de l'information et la monarchie. Bon, j'ai un ami, David Chenu, qui a fait sa thèse dessus. Hein, il y a quand même une information économique qui circule avec des relais très différents. Alors, la première abolition, c'est 1794. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc on est en pleine révolution, c'est pas par humanisme. C'est parce qu'en fait, il y a... même si certains députés partageaient bien sûr cette vision, mais il y a une grande révolte à Saint-Domingue qui inquiète. Et puis la France n'a pas les moyens d'aller la mater véritablement. Donc que fait-on ? Eh bien, on décide d'abolir l'esclavage. Alors, vous avez à cette époque-là, ce n'est pas des partis politiques, parce que les partis politiques vont apparaître à la fin du XIXe siècle. Vous avez une sorte de groupement plus ou moins formel. Vous avez les Jacobins. Jacobins, eux, ils s'appuient sur les milieux populaires. Ils n'en ont strictement rien à faire de l'esclavage. Et même, ils considèrent que c'est une abomination. Et donc, eux, ils vont militer pour l'abolition. De l'autre côté, vous avez les Girondins. Les Girondins, eux, en tant que tels, ne sont pas non plus très favorables à l'esclavage. Mais leur clientèle électorale, si j'ose dire, c'est la bourgeoisie des ports de l'Ouest, Bordeaux, Nantes, etc., qui vivent de l'esclavage. Et donc, il va y avoir une tension. Il y aura les débats. Et finalement, l'esclavage va être aboli en 1794. Mais ce n'est pas quelque chose qui, vraiment, qui s'est imposé. Il ne faut pas oublier aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui a longtemps été oublié. On a l'impression que c'est la loi qui descend, etc., qui impose. Il y a quand même tout un mouvement abolitionniste, hein, qu'on retrouvera d'ailleurs aux États-Unis, etc., de personnes qui militent, parce qu'elles y croient, elles le veulent, pour l'abolition de l'esclavage, car elles trouvent ça indigne, car elles trouvent ça insupportable, car elles trouvent que c'est un retour en arrière par rapport à la marche de l'histoire. Donc, il y a aussi ce mouvement vers le bas qui se dirige vers le haut de l'État. Voilà, donc à peu près, c'est pour ça qu'en 94, mais le point de départ, c'est la grande révolte à Saint-Domingue qui met un peu, comment dire, la pression à nos députés. Il est rétabli par Napoléon Ier et après, il faut attendre donc 1800. 48. Alors, 1848, c'est pareil, on a l'image d'un Victor Schœlcher, qui était un militant abolitionniste, hein, y a aucun débat là-dessus. Mais on a l'impression qu'il n'y a que lui, en fait, qui porte cette idée par lui-même et qui arrive à convaincre tout le monde. Ce qui est vrai d'une part, mais d'autre part, il faut relativiser parce qu'il y a aussi tout un mouvement abolitionniste qui décide de mettre fin à cet esclavage, à ce phénomène. Et d'autant que la Deuxième République, lorsqu'elle arrive, en fait, au départ, elle est très libérale. C'est vraiment un régime extrêmement libéral. Bon, par exemple, on abolit la peine de mort pour délit politique, on donne le droit de vote à tous les hommes âgés de plus de 21 ans. Ça fait 7 millions de personnes d'un seul coup qui se retrouvent électeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On crée pour la première fois et la seule fois dans notre histoire le droit au travail. Donc c'est quand même assez spectaculaire. Et l'abolition de l'esclavage, en fait, s'inscrit dans ce contexte, à savoir d'une république libérale qui veut poursuivre la révolution, en fait, en donnant de nouveaux droits. Et l'existence, le maintien de l'esclavage apparaît comme une macule absolument insupportable. Et donc, on décide de le supprimer et de l'abolir.
Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché ? Parce que ça, c'est la première abolition.
Oui. Ah ben là, c'est ce que je vous disais, c'est que la première abolition, donc en 94, n'a pas fonctionné parce qu'à un moment donné, Napoléon Ier se retrouve donc au pouvoir et le lobby créole, notamment, lui fait dire que voilà, à Saint-Domingue et la Guadeloupe, notamment, sont à feu et à sang, les anciens esclaves se révoltent, massacrent les planteurs et leurs familles, menacent les intérêts de la France, c'est insupportable pour l'empereur. Et donc, que fait-il alors qu'il n'est pas, lui-même, convaincu de la nécessité d'abolir l'abolition, en quelque sorte. Mais il se fait convaincre. Hein, c'est un dossier qu'il ne maîtrise pas, fatalement. Bah, s'occuper de tout, mais bah, parfois, on s'occupe de tout, on ne s'occupe de rien.
C'est ça.
Voilà. Et donc, il décide, à un moment donné, de rétablir l'esclavage. Alors, ça va lui coûter cher, hein, parce que, par exemple, Haïti, il y a une grande révolte, etc. Et la fin de l'abolition entretient le climat révolutionnaire. Napoléon Ier envoie des troupes. Enfin, c'est avant Napoléon Ier, mais Bonaparte envoie des troupes. Il y a une défaite. Et en 1804, Haïti devient indépendante. Et c'est d'ailleurs un modèle aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, on a l'émergence d'une société avec des micro-propriétaires terriens, parce qu'on a divisé les plantations en fonction du nombre d'anciens esclaves. Donc, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, mais ça montre aussi, ça explique que en fait, c'est une conséquence d'une mesure de Napoléon Bonaparte.
Aussi, en 1784, peu avant le début de la Révolution, une ordonnance royale de Louis XVI qui demandait un traitement plus humain des esclaves avait été purement et simplement rejetée par les colons de Saint-Domingue. Et ce qui devait arriver, arriva. En août 1791, un millier d'esclaves de Saint-Domingue se révoltent. Menés par un prêtre vaudou du nom de Duty Bookman, ils tuent des propriétaires d'esclaves et incendient des champs de canne à sucre, de tabac et de café. Ils parviennent à se défaire de leurs chaînes et à briser l'autorité politique et morale des colons. C'est le début de ce que l'on va appeler la révolution haïtienne. Toussaint assiste à cette révolte de loin. On peut dire qu'il est un peu le cul entre deux chaises. D'un côté, il profite du système colonial, puisqu'il est lui-même devenu propriétaire de plusieurs plantations. Et au début de l'insurrection, il retourne chez ses anciens maîtres pour les protéger.
Et donc, on a parlé des révoltes qu'il y a pu avoir. Est-ce qu'il y a des figures emblématiques, justement, de ces révoltes ?
Bah, Toussaint Louverture, effectivement. Mm-hmm. Il joue un rôle ambigu. Hein, il est nommé gouverneur d'Haïti en 1797. Au départ, il est pour la Révolution. Enfin, il était vraiment pour la Révolution. Il apparaît comme l'homme, on va dire, de la métropole. Et puis, il va, à un moment donné, profiter, en quelque sorte, entre guillemets, hein, il n'y a pas de calcul politique derrière lui, de cette abolition de l'abolition, pour devenir la figure, comment dire, centrale du combat à Haïti et qui il va réussir puisque Haïti va devenir indépendante en 1804.
Donc là, ça y est, abolition, la dernière, c'est bon, on n'en parle plus. Mais comment ça se passe en fait la suite ? Parce que j'imagine que pendant deux siècles, quand il y a eu un système comme ça, pour réussir à voir l'avenir ensemble, c'est compliqué.
Ouais, c'est très compliqué parce qu'en 1848 aussi, au-delà du mouvement abolitionniste, il y a également des tensions très très fortes, par exemple dans les Antilles. Alors, comment ça se passe ? Alors, il faut déjà corriger des idées reçues. Lorsqu'on abolit l'esclavage en 1848, il n'est pas aboli partout en même temps. C'est-à-dire, 1848, c'est une date, effectivement, mais dans tous les territoires étrangers où résident des Français, ça fait à peu près 20 000 personnes, hein, elles ne sont pas tout de suite concernées. C'est-à-dire qu'il y a des délais, on va leur accorder des délais, ça va durer jusqu'en 1858. Aux États-Unis, ça durera plus longtemps, il faudra attendre 1863 en Louisiane, par exemple, parce que 1863, pour les Français, c'est rien comme date, Mais pour les États-Unis, c'est l'abolition de l'esclavage. Mmh. Donc là, du coup, les Français propriétaires d'esclaves se retrouvent obligés de libérer leurs esclaves et de les rendre libres. Voilà. Donc c'est, ça ne se passe pas comme ça. En 1948, c'est fini, c'est terminé. Alors après, théoriquement, tant par exemple les îles, les Antilles, etc., ce qu'on appelle les îles à sucre, bah, les anciens esclaves deviennent des citoyens. Ils sont libres, ils ont donc les mêmes droits et les mêmes devoirs que leurs camarades, homologues, métropolitains. Ça ne se passe pas véritablement comme ça. Ils ne sont plus esclaves, certes, mais deviennent salariés de leur ancien maître. D'ailleurs, vous allez faire venir un de mes étudiants et il vous l'expliquera, les noms de famille les noms de famille viennent des noms des planteurs. Vous voyez, il y a toujours un héritage onomastique de ce phénomène. Et donc, en fait, en théorie, ils ont les onomies, c'est-à-dire l'égalité devant le droit et la loi, mais en fait, il y a des restrictions qui sont émises par les anciens propriétaires, comme par exemple de déplacement. Est-ce que ça va générer une frustration, même s'il y a des votes, hein, il y a des élections, évidemment, mais ça va entraîner une frustration. Et d'ailleurs, le premier combat politique véritable dans ces îles, ça sera qu'on obtienne les mêmes droits qu'en métropole. Et ça va aboutir après la Seconde Guerre mondiale, parce que bon, ces territoires ont quand même beaucoup œuvré à la libération de la France. Et donc, en 1946, on leur accorde la départementalisation. Donc, ce n'est pas tous les territoires, mais c'est la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc. On en fait des départements en part entière, où là, c'est clair, c'est net, les personnes qui habitent sont des citoyens, des citoyennes en part entière. Là-dessus, il n'y a plus de débat. Même si après, il reste encore quelques héritages, malheureusement. Pour les autres, ça va s'échelonner. Il y a des Français en Louisiane, par exemple, qui se naturalisent américains pour échapper à la loi sur l'abolition, depuis les décrets. Et puis, il y a quelque chose que l'on oublie souvent, c'est qu'en 1849, est votée une loi. Et là, c'est un héritage du Code noir, en fait. C'est une loi d'indemnisation. Parce que, comme je vous disais, le Code noir fait de l'esclave un bien meuble. Et ce bien meuble a été acheté.
Alors, qui est indemnisé, bien sûr, voilà. Ce ne sont pas les esclaves.
Ah, tout à fait. Alors, on peut bien sûr critiquer cette conception, mais elle existe à cette époque-là. Et donc, l'État, c'est l'État hein, qui indemnise les anciens propriétaires d'esclaves. Alors, ça représente à peu près, c'est une somme colossale, hein, je crois que dans l'équivalent en euros aujourd'hui, hein, ça ferait, je l'ai marqué quelque part, je ne vais pas dire, parce que la somme est tellement spectaculaire, je crois que c'est 126 millions de francs or à l'époque, en 1949, qui correspond à 27 milliards d'euros. Alors,
d'où cet argent? C'est l'État
français. L'État qui paye, bien sûr, tout à fait. Alors, c'est à peu près le budget d'éducation nationale, c'est grosso modo 50 milliards. Donc, c'est plus de la moitié du budget d'éducation nationale.
Okay.
Ça représente une somme quand même assez conséquente, qui ne sera pas tout totalement versée. À un moment donné, je crois que c'est sous la Troisième République, c'est même bien plus tard que ça, pardon, on va décider d'arrêter cette indemnisation parce que c'est quelque chose d'insupportable. Voilà.
Et puis, en fait, c'est une indemnisation qui, j'imagine, a permis aux propriétaires de continuer en fait, une forme d'esclavage. C'est juste que ça portait plus le même nom et puis qu'il y avait quelques euros. Bon, c'était pas des euros à l'époque, mais en tout cas, il y avait quelques pièces qui étaient données aux travailleurs.
Tout à fait. D'autant qu'ils sont soumis à une pression, à une concurrence d'une autre main-d'œuvre, hein, ce qu'on va appeler l'engagisme, hein, c'est-à-dire qu'on va engager des personnes qui vont venir de territoires, on va dire, souvent asiatiques, et qui sont littéralement des esclaves. Alors, ils n'ont pas le titre d'esclave, parce qu'on ne peut plus, évidemment.
Bah oui.
L'esclavage est aboli, mais qui ont des conditions de vie et de travail qui sont très, très proches de l'esclavage.
Et comment il est possible, lorsqu'on a passé quasiment toute sa vie, parce qu'il y a de nombreux esclaves qui sont nés directement dans les plantations, de réussir du jour au lendemain, on ouvre la porte et débrouille-toi. Comment on se relève de ça, en fait?
C'est très compliqué, d'autant qu'ils vont rester sur les plantations où ils ont été esclaves pour la plupart. Alors certains vont réussir à s'en sortir, du moins à sortir de cet univers. Mais évidemment, on n'efface pas d'un trait une vie servile par un texte de loi.
Et puis en plus, il y avait différentes catégories. Hein. Là, je parlais de ceux qui sont nés au sein des colonies. Mais il y avait la possibilité de s'émanciper. Enfin, il y avait encore tout plein d'aspects un peu différents.
Tout à fait. C'est une société très plurielle, en fait. On voit ça encore une fois dans une société était très homogène. Elle est déjà plurielle par l'origine géographique, elle est plurielle par les tâches, elle est plurielle par les relations qu'ils peuvent nouer avec les propriétaires, par les fonctions qu'ils ont. Alors, bien sûr, l'esclave, on va dire, agricole qui récolte le sucre, qui est l'esclave qui fait des travaux domestiques ou l'esclave qui fait des travaux artisanaux, ont peut-être le même statut, mais n'ont pas du tout la même réalité dans leurs conditions de vie de travail.
Les personnes noires sont la cible privilégiée des attaques et préjugés racistes. Mais pourquoi eux ? Alors que le progrès ne cesse de changer la face du monde, le racisme persiste depuis des siècles. Alors, de l'esclavage ou du racisme, lequel a engendré l'autre ? Comment le discours racial a-t-il façonné le monde moderne ? Et comment le mettre enfin hors jeu ?
Donc pour revenir un petit peu à un temps un peu plus contemporain, on parlait plutôt de la loi Taubira qui est arrivée en 2001, c'est arrivé plutôt tard. Comment ça se fait que ce soit arrivé aussi tard ?
Bah comme je vous disais, hein, c'est pas un phénomène dans l'histoire qui intéressait beaucoup de personnes, malheureusement. Et puis il y a une prise de conscience, il y a 2001, bon voilà, on est dans le moment donné où la France commence à regarder un peu son histoire, même les choses qui font mal. Bon, aujourd'hui, on le voit par exemple avec l'Algérie. Donc voilà, Christine Taubira, c'est une élue de Guyane. Donc c'est un territoire qui a aussi concerné. Donc elle est beaucoup plus préoccupée par ces questions que par exemple un député de la Marne ou de Seine-Saint-Denis ou de Nice.
Mais on ne devrait pas tous être autant préoccupés. C'est pas parce qu'on grandit sur un territoire ultramarin qu'on est... Enfin... On l'est forcément, parce que j'imagine que le climat fait que, voilà, on y grandit et on n'a pas le choix. Et c'est certainement ce qu'on apprend peut-être un petit peu plus aussi à l'école. On en parlera plus tard, justement, de la manière d'enseigner dans les territoires ultramarins et puis en métropole. Mais on est français tous.
Oui,
c'est
oui,
peut-être un petit peu utopiste de dire ça. Mais,
Non, pas du tout. Mais mes étudiants vous le diront, parce qu'ils vivent, il y en a un qui est originaire vraiment d'un de ces territoires ultramarins. Il y a quand même un paysage mental, voire géographique, psychologique, qui est largement imprégné par l'esclavagisme. Donc c'est des choses, nous dans la Marne, voilà. Après, il y a des personnes qui vivaient dans les grands ports ou qui vivent dans les grands ports esclavagistes, etc. Et évidemment, ils sont aussi confrontés à cette mémoire, mais qui n'est pas la même que la nôtre. Donc il faut bien faire attention à ça. On n'a pas une mémoire homogène sur l'esclavagisme. Hein. Quelqu'un qui s'est enrichi avec le commerce triangulaire à Bordeaux, c'est pas le petit paysan vigneron de Nogent-la-Besse, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on n'a pas du tout le même rapport à l'esclavage. La majeure partie des personnes le condamnent, heureusement. Mais le rapport à ce phénomène historique, la manière dont on le vit dans sa chair, dans son esprit, n'est pas du tout la même.
Et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de pas avoir énormément de traces, en fait, finalement, de cette période, que ce soit des écrits, que ce soit des objets. Enfin, j'ai l'impression qu'on manque... cruellement, alors je me trompe peut-être, mais de traces palpables, de traces physiques.
Non, non, au contraire, là, on a largement de quoi faire. Il y a des archives, que ce soit des archives publiques, des archives privées, des témoignages d'anciens esclaves, des souvenirs de planteurs, on a les listes des esclaves qui sont transportés, enfin, on a quand même un ensemble de choses. On a après les héritages, avec les statues, par exemple, hein, dont on parle souvent, d'anciens armateurs, etc., les noms de rues. Hein, bref, il y a vraiment un ensemble de sources. Mais comme je vous disais, à un moment donné, la science historique, elle progresse en s'intéressant à des domaines et à des champs qu'elle négligeait auparavant pour différentes raisons. Et puis, il y a une pression de la société. La société française devient de plus en plus plurielle. Cette question, il y a une volonté aussi de certaines personnes qui ont des origines dans ces territoires, qui ont une autre forme de contact avec une mémoire qui n'est pas la même que celle, par exemple, d'un métropolitain. Et donc, il y a aussi, à un moment donné, cette question, hein, ce retour en arrière à la société française. Bah, oui, il y a eu l'esclavage, l'esclavagisme, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça impactait, etc. Et donc, tout ça produit... comment dire, un mouvement social, alors plus ou moins important, hein, mais également des interrogations. Puis voilà, et la ministre décide de faire une loi. Et cette loi va entraîner justement non seulement donc une condamnation d'une part, mais d'autre part, une présence plus forte dans les programmes scolaires.
Est-ce qu'il y a une sorte de tabou aussi, peut-être, parce que là, donc, c'est en effet Christiane Taubira, originaire de Guyane, qui a proposé ce texte de loi. Mais est-ce que ça aurait pu être proposé par un député qui vient d'un territoire, de la métropole plutôt, une sorte de tabou, en fait, que bah, si on n'est pas sur ces territoires-là, on est concerné, mais un peu moins, c'est pas à nous d'en parler, c'est...
Alors oui, non, rien ne s'y oppose dans les faits. Quelqu'un qui peut s'intéresser, par exemple, si c'est quelqu'un qui est intéressé par l'histoire des territoires ultramarins, l'histoire de l'esclavagisme, aurait pu bien sûr le saisir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais on sait quand même qu'en Guyane, c'est encore une société qui est largement travaillée par les mémoires de l'esclavagisme. Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit une députée de Guyane qui s'en saisisse. Mais non, en théorie, rien n'empêche. Hein, on a parfois des lois qui sont votées par des personnes dont on peut se demander pourquoi elles font voter une loi. Non, ça, rien qui s'y oppose en théorie, bien évidemment.
Et donc là, on a tenté, là, pendant cette grosse demi-heure, d'ailleurs, déjà, ça passe super vite, de vulgariser donc, l'histoire de l'esclavage. Peut-être que parmi mes questions, j'ai évoqué des idées reçues, mais justement, c'est quoi les erreurs en fait, qu'on a tendance à faire assez souvent quand on tente de vulgariser cette histoire ?
Alors, la première erreur, c'est que de croire que voilà, l'abolition en 48, parce que si on se réfère vraiment à la date canonique, ça règle tout. Donc ça, c'est la première erreur à faire, c'est de se dire que voilà, en 48, tout est fini. Non, tout n'est pas fini en 1848. Il faudra attendre 1858 pour que toutes les mesures, on va dire, provisoires soient mises à terme. Donc voilà, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de croire aussi que, comment dire, que, enfin, c'est la méconnaissance sur les circuits de l'esclavage. C'est-à-dire que ce n'est pas des Européens qui vont rasier, hein, à cette époque-là, je parle. Hein. C'est souvent des sociétés locales qui travaillent sur l'esclavage, qui raflent des personnes et qui les vendent après aux Européens. Ce qui n'excuse rien, on est bien d'accord, etc. Donc, c'est de ne pas croire, en fait, que l'esclavagisme a une origine occidentale, une démarche occidentale et puis une conséquence occidentale. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Hein. C'est vraiment une... C'est vraiment un phénomène très, très complexe. Et vous voyez, par exemple, quand on étudie les Moyen-Âge africains, ce qu'on fait à Sciences Po en première année, eh bien, on découvre en fait qu'il y a des sociétés africaines qui se bâtissent sur le commerce de la traite parce qu'elles en tirent profit. Donc tout ça, il faut le rappeler, ce sont des réalités. Ce n'est pas une question de prendre parti, c'est un fait historique.
Il y a ça a toujours existé dans divers peuples.
Pas toujours. C'est quand même un peu, à un moment donné, une demande européenne, entre guillemets, qui fait que, bah, voilà, on a besoin d'une main-d'œuvre. Hein. Les Portugais, lorsqu'ils vont s'installer en Afrique, eh bien voilà, ils ont des gros problèmes dans leur colonie d'Amérique latine parce que le travail est dur. Les Amérindiens sont décimés par la variole, l'alcoolisme, la maltraitance, il ne faut pas, surtout pas l'oublier. Et donc, ils recherchent, parce qu'on a l'expression, mais une autre main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, ils vont la trouver en Afrique parce que tous les Occidentaux sont persuadés à l'époque que l'Afrique est une terre pleine, si j'ose dire, avec une forte démographie. Mais aujourd'hui, les études montrent que elle n'était pas si peuplée que ça, d'une part, et d'autre part que l'esclavagisme d'abord et ensuite la colonisation va avoir un impact démographique absolument incroyable et terrifiant sur les populations africaines. Mais ça fait partie de ces... Voilà, on a l'impression que l'Afrique, c'est un monde plein. Voilà, on peut, comment dire, utiliser cette population pour nourrir l'économie occidentale. Ensuite, une autre erreur que l'on pourrait faire croire, qu'on pourrait croire, et qui est souvent le cas, c'est qu'il n'y a pas de sources. Il y a plein de sources. Et de toute façon, c'est ce que je vous disais, la science historique progresse. Et quand elle progresse, en fait, elle découvre qu'il y a plein de sources sur un sujet dont on pensait qu'il n'y avait pas de sources. Voyez ? Donc ça, c'est... Voilà, c'est quand on ne s'intéresse pas à quelque chose, eh bien, on n'est pas engagé à faire l'inventaire des choses qui existent sur un sujet qui ne nous intéresse pas pour des raisons X ou Y. Mais dès qu'on s'y intéresse, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses. Si je prends par exemple la mémoire de l'esclavage, alors le paysage urbain en France, soit en Grande-Bretagne, encore a fortiori, dans les villes comme Brighton par exemple, c'est rempli de souvenirs de l'esclavage. Voyez, si on prend par exemple la production cinématographique ou la production télévisuelle, vous avez plein de films, plein de séries, etc. Pas non plus la majorité, mais vous en avez beaucoup qui l'évoquent. Donc en fait, il y a matière à travailler. Et une des erreurs, c'est de croire qu'il n'y a pas de matière. Mais il y a plein de matière. C'est peut-être aussi une des explications pour lesquelles on ne s'en est pas saisi tout de suite, c'est-à-dire de croire en fait que bon, il n'y a rien, il y a deux, trois trucs.
On part du principe que du coup, ce sont des populations qui ont été raflées, hein, je réutilise votre terme.
Oui.
Et donc, du coup, forcément, quand on est arraché à ces terres, qu'on vit pendant des années à devoir travailler du matin jusqu'au soir, on n'a pas le temps de pouvoir se permettre de laisser des témoignages.
Oui.
Et pourtant, justement, j'imagine que ces personnes-là avaient ce besoin en fait, de laisser un héritage et d'expliquer ce qui leur est arrivé.
Il y a des chansons, il y a des poèmes, il y a la mémoire orale. Il y a aujourd'hui, par exemple, dans certains pays africains, avec des ports qui étaient les plaques tournantes du commerce esclavagiste, une sorte de retour de personnes, par exemple, des États-Unis, dont un ancêtre a été un esclave et qui reviennent et qui contribuent à créer ce qu'on appelle des chemins de mémoire. Donc, il y a vraiment une réappropriation qui est mondiale, en fait, hein, parce que l'esclavagisme, malheureusement, est un phénomène international, mondial, c'est pas que franco-français. Mmh. Donc, mais c'est pour ça que la loi de Taubira s'inscrit également dans un contexte international où il y a une volonté d'explication, une volonté d'appropriation. C'est pas que franco-français, en clair. Voilà. Donc, non, effectivement, il y a plein de choses. Alors après, étudier les mémoires orales, c'est plus compliqué parce que ça demande vraiment une technique d'investigation historique que tout le monde n'a pas. Mais pour conclure cet aspect, il ne faut pas croire en effet qu'il n'y a pas de sources, qu'il y a énormément de sources.
Si vous saviez comme j'ai hâte.
Liberté ! Égalité ! Nique ta mère !
Et on parlait un petit peu là des films, notamment, hein, qui existent pour pouvoir se renseigner sur ces sujets. Alors forcément, il y a un film qui nous vient tout de suite à l'idée en France, c'est le film Casse Départ. J'ai en entendu beaucoup sur ce film, évidemment, donc c'est un film qui a pour but d'être humoristique. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire et surtout quel film, dans ce cas-là, on pourrait conseiller ou quel documentaire? Là, il y en a un prochainement qui sort au cinéma également, qui est signé par Abdelmalik. Le film Fursi. Est-ce que ce sont des choses intéressantes à regarder? Et bien sûr, il faut se renseigner et croiser les sources comme d'habitude.
Tout à fait. Toutes les productions audiovisuelles, alors par exemple, si on se limite au cinéma, il faut tout regarder. Okay. Pourquoi il faut tout regarder? Parce que même s'il y a une volonté comique, etc., il y a toujours un regard sur l'esclavage. Et c'est ce regard qui est intéressant. Ce n'est pas le fait de dire que là, on met une situation comique, un phénomène qui est insupportable. Non, ce n'est pas le travail de l'histoire, le travail de l'historien. Bon, moi qui suis historien du cinéma, moi, quand je regarde un film ou une série télévisée, par exemple, en ce moment, je travaille sur le Covid, je dis, voilà, qu'est-ce que cette série offre comme regard sur le Covid? Je ne cherche pas à savoir si son regard est humoristique, sérieux, documenté, etc. Je vois le regard qu'elle propose. Parce que ça propose un regard. Il y a eu un travail narratif, il y a un travail scénaristique. Ça, c'est très important. Après, si on arrive à pénétrer dans l'esprit des scénaristes ou des showrunners, c'est de savoir quelles sources ils ont mobilisées pour pouvoir travailler. Donc, toutes les productions télévisuelles sont à regarder. Les plus sérieuses comme les moins sérieuses. Après, il y a les grands films, La couleur pourpre, un peu, qui évoque. Vous avez également un témoignage, parce que c'est un témoignage, ce n'est pas sur la société française, mais sur la société américaine, autour de Porte-le-Vent. Ah ben aujourd'hui, bien sûr, il y a des scènes qui sont insupportables. Mais c'est aussi bien de le regarder pour comprendre ce que c'était et le regard de la société américaine, comment cela a évolué, vous voyez. Donc, tous les films sont bons à prendre. Moi, sincèrement, quelqu'un qui veut comprendre, ça ne parle pas de la France, mais quelqu'un qui veut comprendre l'esclavage, c'est un vieux feuilleton, pardon, qu'on trouve encore sur YouTube, c'est Racine.
D'accord.
Là, c'est tiré d'un roman. C'est une fresque monumentale qui a été diffusée en prime time aux États-Unis. Ça a été un choc dans l'opinion publique américaine. Les gens ont découvert des choses, une réalité. C'est brutal, hein, c'est sans aucune concession. Il n'y a pas de mièvrerie. Il faut retrouver ce vieux feuilleton. Il a été diffusé en France il y a très, très longtemps. Hein. Mais là, vraiment, il y a un témoignage sur ce qu'est l'esclavage. Voilà, par exemple, sur les rafles, sur les transports, les mortalités qui sont effroyables. Même si, d'ailleurs, c'est d'ailleurs incompréhensible. C'est un capital. En quelque sorte. Mmh. Donc, on devrait prendre garde à ce capital, parce que c'est de l'argent, ça a été acheté, etc. Et après, voilà. Donc, il y a quand même des questions que ça pose. Et puis, à un moment donné, dans Racine, il y a une scène de vente. Le bateau vient d'arriver, il y en a qui sont morts, il y en a qui sont blessés, il y en a qui sont plus très vaillants. Et le type, il veut vendre, parce qu'il a... C'est malheureusement...
C'est une marchandise,
voilà,
bah oui.
C'est ça. C'est toute l'absurdité, la cruauté du système. Et non, rien que voir cette scène, qui est filmée sans filtre, hein, c'est-à-dire là... Il y a tout, hein. Bon, je ne vais pas détailler là, mais il y a vraiment tout, comment c'était. Et s'appuyer sur des sources, des témoignages d'anciens esclaves, etc. Donc là, quelqu'un qui veut rentrer dedans et avoir une bonne vision, même si c'est très dur, il faut regarder ce feuilleton. Moi, après, je conseille souvent, alors c'est pareil, ce n'est pas sous la société française, parce que ce n'est pas mon domaine d'étude, mais c'est un roman graphique en noir et blanc qui a été publié chez l'éditeur Ça et Là. C'est Angola Yanga. L'auteur, c'est Marcelo De Salate. Alors là, vous avez vraiment, c'est remarquable. En plus, ça évoque le phénomène du marronnage, d'un royaume d'anciens esclaves qui s'est constitué au milieu de territoires de planteurs, de plantations, l'action des planteurs pour essayer de réduire cet empire d'anciens esclaves, également la vie dans les plantations, les différents statuts qu'on évoquait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment c'est un très beau roman graphique en noir et blanc. C'est un dessin très pur, mais là, quelqu'un qui veut rentrer dans l'esclavage en un seul roman, Il a tout.
Est-ce que vous pouvez rappeler le nom ?
Ah oui, alors c'est Angola Yanga, publié aux éditions Ça et Là. C'est un roman graphique en noir et blanc. Et l'auteur, c'est Marcelo D'Apostrophe Salete, S-A-L-E-T-E.
Eh bien, comme ça, c'est noté. Et puis, on a noté également Racine, hein, qui est encore accessible, vous l'avez dit, sur YouTube. C'est en français ?
C'est en américain, mais je pense qu'il y a
les sous-titres automatiques de YouTube.
Exactement. Puis, vous avez également le film de Steven Spielberg, Le nom m'échappe, mais sur la révolte dans un bateau. Négrier. Vous avez également des films anglo-saxons hein, sur les mouvements abolitionnistes. Enfin, vous avez vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc là, vous cherchez sur Internet, il y a vraiment une très grande production, une grande production audiovisuelle sur ce thème.
Et donc, on l'a dit, Racine, par contre, un peu pas violent, mais en tout cas, il faut avoir le cœur bien accroché pour pouvoir regarder.
Surtout aujourd'hui, parce que ça choquait à l'époque. Aujourd'hui, il y a des scènes qui... la scène du marché aux esclaves est insupportable. Mais c'est une réalité historique.
Toby, je vais te donner une chance d'éviter cela. Peut-être que Monsieur Waller voudra que tout le monde profite de ce jour béni. Je te préférerais en bonne santé, pour que tu puisses travailler dur. Tout ce que t'as à faire, c'est de me dire ton nom. Je suis Kunta Kinte. Mon gars, on y va. Ah ! Tu t'appelles Toby, alors dis-moi ton nom maintenant. Kunta Kinte. Tu t'appelles Toby. Je te le demande encore une fois. Dis-moi ton nom. Dis-le. Toby. Dis-le. Dis-le. Kunta Kinte. Toby. C'est Toby. Allez, dis-le. Toby, tu ne bougeras pas d'ici avant d'avoir dit ton nom, même si la nuit tombe ou qu'un nouveau jour se lève. Et tu le diras, Toby, dis-le, 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 dis-le. Dis ton nom maintenant, l'épouse de ton propriétaire l'a choisi pour toi. Dis ton nom, ainsi tu sauras qu'ici on n'est pas en Afrique. Ici c'est la Virginie, et tu es la propriété de John Waller, comme les chevaux et les porcs, rien de plus. Maintenant tu dis ton nom, ainsi tu sauras ce que tu es. Dis-le. 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 Dis-moi ton nom, mais dis-le, salopard. Dis Toby, dis ton nom.
Il l'a dit. Il l'a dit.
Et redis-le plus fort. C'est quoi ton nom? Ton nom.
Et justement, ça me permet de poser la question, vous, en tant qu'historien, en tant que professeur, en tant qu'enseignant, comment vous faites ? Alors, j'imagine que ça dépend bien sûr des publics, mais pour pouvoir aborder cette période de l'histoire qui donc est très, très, très intéressante, on vient de le voir, mais qui est aussi très violente.
Alors, comme pour tous les objets d'études, hein, par exemple, que ce soit la Shoah, la collaboration, la guerre, le terrorisme, il faut s'appuyer sur les sources et avoir un discours... objectif, serein. Il y a pas de... l'histoire est une science passionnante, mais il ne faut pas mettre de passion dans l'histoire, parce que sinon, ce n'est plus l'histoire, c'est autre chose. Et ce n'est pas mon rôle, et ce n'est ni ma fonction, et, ni mon tempérament. Donc, il faut s'appuyer sur les sources, que les élèves ou les étudiants comprennent ce que c'était. Bon, donc, on étudie, nous, par exemple, à Sciences Po, en première année, la révolte à Haïti, par exemple. Donc, on s'appuie sur les sources, sur les travaux d'historiens, etc. C'est fait sans passion, avec les instruments de la raison. Et c'est ce qu'on nous demande, et c'est ce qu'on attend de nous. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de... Après, si vous voulez travailler sur la mémoire de l'esclavage, vous risquez d'avoir... C'est tout aussi possible, hein, c'est aussi toujours intéressant de montrer ce qu'il en reste aujourd'hui dans nos sociétés. Là, vous êtes confronté peut-être à une production, enfin, peut-être même sûrement à une production plus militante. Donc il faut toujours faire attention aussi les textes que vous choisissez ou les extraits de vidéos que vous choisissez. Parce que le militantisme, aussi noble soit-il, ce n'est pas l'histoire. Mmh. Ce n'est pas un travail historique. Donc, il faut également le contextualiser. Il faut aussi éviter ce qu'on appelle la téléologie. Alors, oui, bien sûr, aujourd'hui, l'esclavage nous est insupportable. Et dit, mais voilà, c'est naturel qu'en 48, nous l'abolissons. Oui, c'est naturel, mais ça n'est pas ça ne s'est pas produit comme ça. Il y a plein de facteurs qui expliquent qu'on a aboli l'esclavage en 48. Ça aurait pu être plus tôt. Ça aurait dû être plus tôt. Mais ça aurait pu être plus tard. Mmh. Voilà. Donc, il faut rendre. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut, en fait, pour conclure, c'est qu'il faut montrer le champ des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours un rapport de force, une loi. Et l'abolition de l'esclavage en 1994 ou en 1848, c'est un rapport de force. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Il n'y a pas seulement le phénomène insupportable de la traite, des conditions de vie et de travail. Ça, tout le monde est d'accord dessus. Mais c'est d'expliquer qu'en fait, c'est un rapport de force. Qu'à un moment donné, c'est cristallisé sur le « oui, il faut abolir ». Mais il aurait pu se cristalliser sur le « non, il ne faut pas abolir ». Voilà, à peu près.
Et quand on parle aujourd'hui, alors on sort peut-être un petit peu du sujet, mais d'esclavage moderne.
Alors, l'esclavage moderne, il existe, hein, c'est une réalité. Souvent, dans les pays du Moyen-Orient, on a eu quelques cas en France. Alors, généralement, c'est très compliqué, puisque ça fait souvent des titres dans le Canard enchaîné, notamment, mais aussi dans la presse sérieuse, c'est que ce sont malheureusement fréquemment des personnes qui sont employées par les diplomates, qui sont donc protégées par un statut. On peut les expulser, bien évidemment. C'est très compliqué. On a quand même des affaires assez sordides hein, de personnes qui sont... On prend leur passeport, donc elles n'ont plus d'existence. Elles ne peuvent plus sortir du territoire. Elles n'ont pas de congés payés, etc. Elles sont enfermées, elles ne sortent pas, etc. C'est assez effroyable. Non, l'esclavage existe encore aujourd'hui. C'est malheureusement une permanence des sociétés humaines. C'est-à-dire qu'elle existait sous l'Antiquité et ça existe toujours aujourd'hui. Alors, bien sûr... sous des formes moins massives. Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que c'est moins massif, c'est moins visible, mais c'est tout aussi pernicieux.
Donc malgré qu'on étudie encore tous ces faits historiques, on va dire que l'histoire se répète de manière différente, mais se répète.
On peut dire que l'histoire bafouille, comme disait Karl Marx, il avait tout à fait raison. Mais je crains que malheureusement, on a vu le meilleur de l'homme et de la femme avec l'abolition, mais il y a aussi le plus mauvais avec le maintien de l'esclavage, cette volonté en fait de ne pas reconnaître l'humanité chez son voisin.
Un dernier petit mot, peut-être un petit peu plus positif pour terminer sur une note joyeuse. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir du coup de cet épisode ?
Ah, moi, ce qu'on pourrait retenir, bon, après la difficile construction, c'est surtout de s'intéresser à toutes ces personnes qui, par le bas, ont œuvré à l'abolition de l'esclavage. C'est très bien de saluer des grands noms comme Toussaint Louverture, comme Victor Schoelcher, c'est parfait, il faut le faire. Mais aussi peut-être s'intéresser à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément laissé leur nom dans l'histoire, mais qui ont combattu inlassablement pour abolir ce système de domination inique. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait plutôt s'intéresser. Et enfin, il faut s'intéresser à ça parce que ça montre que l'histoire ne se construit pas seulement par des grands hommes et par des grandes femmes, mais par des personnes comme vous et moi.
Eh ben, on peut conclure là-dessus. Alors, merci beaucoup.
Merci, Gustine.
Merci d'avoir écouté Mémoire des Outre-mer. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer à explorer l'histoire et l'héritage de l'esclavage dans les Outre-mer françaises et à tout moment en podcast sur le site internet radioprimitif.fr.